Salut Valoche, qui me fait déjà un petit coucou juste avant que ça commence. Ça va Valérie? T'as la pêche? Allez, c'est parti pour le générique. Bonsoir à toutes et à tous, vendredi 15 mai. 18h30, c'est l'heure de notre rendez-vous habituel depuis déjà quelques temps. C'est plus précisément le 18e Facebook Live Exilium que les journées passent vite, enfin du moins en ce qui me concerne. Aujourd'hui, nous allons lire, je vais vous lire avec grand plaisir l'intégralité du chapitre 10 d'Exilium. Un chapitre bien entendu important parce que là, plus ça va, plus on se rapproche de la fin de l'ouvrage. Et aujourd'hui, notre personnage principal, Frédéric, va avoir une bonne discussion avec Lewis, le troisième Legati, comme vous le savez maintenant, et puis également risque d'avoir une discussion quelque peu corsée avec le proviseur. Mais vous verrez ça. Et puis on aura également un premier contact avec l'abbaye de Noirlac en fin de chapitre. On va fort probablement dépasser un tout petit peu les 19h, parce qu'il y a une ou deux pages de plus, mais rien de méchant. Alors, vous vous installez comme d'habitude confortablement, je vous dis ça tous les soirs, mais bon, j'aime bien vous le répéter. Essayez d'apprécier la lecture. Alors, pourquoi en fait je dis de fermer les yeux? On n'est pas obligé de fermer les yeux pour écouter de la lecture, mais ça me vient en fait d'une prof d'anglais qui était remarquable lorsque j'étais en 5e. Et un jour, elle nous avait dit, pour bien écouter, bien comprendre le magnétophone qui passait, avec donc des personnages anglais, il fallait fermer les yeux et écouter. Alors, ça nous amusait, nous entre élèves, forcément. Ça fait rien, on s'est pris au jeu, de toute façon. On n'avait pas le choix puisque la prof nous le demandait. Et c'est vrai que fermer les yeux et écouter, ça permettait de se concentrer de façon beaucoup plus dramatique dans la situation. Et c'était génial. C'est pour ça que je vous encourage à le faire. Mais bon, si vous faites votre vaisselle en même temps, je ne vous en voudrais pas. Allez, comme tous les soirs, on passe au résumé de la lecture précédente. Et c'est parti. Excusez-moi, je me racle la gorge. Allez, c'est parti. Résumé de la lecture précédente. Ça y est, Frédéric a fait le grand saut. Il les a vus. Il sait enfin à quoi ressemblent Guilhem et Kevin après leur transition. Des créatures redoutables et majestueuses qui inspirent chez leur nouveau meneur le plus grand respect. Frédéric sent que sa vie prend un tournant, que ses priorités ne seront plus jamais les mêmes. Il réalise aussi à quel point les préoccupations de la société sont artificielles. Une société qui finalement s'est éloignée du sens réel de l'existence, qui consiste à vivre et célébrer la vie. Exilium, livre 1, chapitre 10, vendredi matin. Tout mon stress fut vaporisé dans la soirée. Que de chemin parcouru depuis les premiers sifflements entendus dans le dortoir et mes deux gros chatons qui jouaient hier dans le dortoir. Cette histoire semblait si improbable, au moins autant que toutes les réalités déclarées impossibles, finalement avant qu'elles ne s'imposent. Je quittais les deux legs. Guilhem et Kevin n'avaient pas besoin de moi pour remplir leurs valises et rejoindre la gare. En sortant du bâtiment d'internat, la verdure libérée de son manteau blanc me fit presque regretter la beauté de la tempête que nous avions traversée. Quelques pompons blancs, rebelles, tentaient malgré tout de résister à leur destin. Je pris un bon petit déjeuner au réfectoire, l'estomac désormais dénoué. J'envisageais un dernier passage à la vie scolaire dans une volonté de déposer ce gros et lourd trousseau de clés qui ne me serait plus utile avant la semaine prochaine. Puis, je me ravisais pour tout garder, puisque de toute façon lundi, je serai le premier arrivé au bureau. Mais enfin bon, c'est surtout la flemme qui guida ma décision. Au-delà de l'allée goudronnée qui menait au bureau du proviseur, un bonnet rouge, familier, apparut. Son propriétaire sortait du bâtiment administratif. Le moment était venu d'avoir une conversation constructive avec Lewis. Salut Lewis, tu reviens de chez le proviseur ?
Ouais, salut Fred.
Ouais, je me suis levé plus tôt pour pas te louper. Puis quand le proviseur m'a vu, il m'a demandé de le rejoindre dans son bureau. J'eus peur quant au sujet de conversation qui avait pu être abordé, mais fis confiance à Lewis pour m'en parler spontanément le moment venu. Tes copains se sont couchés tard, tu ferais mieux de les attendre au chaud chez toi. Mais ils sont déjà levés, hein. J'ai reçu un message de Guilhem.
Ah, il t'a tout raconté alors?
Bah ouais, il m'a tout raconté. Mais c'est toi justement que je voulais voir. Je décidai d'assainir la conversation pour saper toute volonté d'y inclure d'interminables non-dits. J'ai passé une soirée mémorable avec les gars. Je le trouve sympa le look de Guilhem, mais bon, je préfère celui de Kevin tout noir. J'aime bien le noir finalement. Et toi, Lewis, tu vires vers quelle couleur après ta transition?
Ah bah presque comme Kevin, hein, mais avec des rayures claires en fait.
Ouais, ça peut être sympa aussi, à voir.
Lewis fut pris d'une irrésistible envie de parler de lui et de son talent. Il ne se dandinait plus et cherchait à se libérer du poids d'un mutisme insupportable.
Tu sais comment deviner quelle couleur on a une fois la transition terminée, Fred ?
Oh, je sais pas, enfin j'ai ma petite idée, mais bon, allez, vas-y, explique-moi.
Bah avec la couleur des cheveux, on a la couleur plus ou moins dominante. Enfin, même si pour les rayures et les taches, c'est un peu hasard en fait.
Ben, pour ceux qui sont chauves, alors ils sont quelle couleur ?
Bah, ils ont la couleur des cheveux avant que les cheveux y tombent. Mais en fait, c'est juste une couleur de base, hein. Parce qu'on peut la modifier à volonté en fonction de notre environnement, de où on est en fait.
Comment ça, vous pouvez la modifier ? Vous pouvez vous camoufler ?
Ah ouais, c'est vraiment trop cool. Enfin, on n'y arrive pas tous, hein, c'est une question d'expérience, tout ça. Mais on peut se poser, par exemple, à quelques mètres seulement de quelqu'un, sans même être repéré. Mais pour ça, il faut que le fond soit assez sombre, quand même, hein. Puis, à la limite, s'il pouvait faire un petit peu le soir, ce serait bien aussi. Il y a des poissons, hein, qui peuvent faire pareil, mais bon, nous, on n'est pas des poissons.
Bah, et ceux qui sont gros, alors, après leur transition, ils deviennent des légatipopotames,
hein. Bah, n'importe quoi. Mais tu verras jamais de gros chez les légatis. Les transitions brûlent trop de calories. On a un métabolisme un peu spécial. C'est l'abbé qui nous avait expliqué ça. Alors on perd facilement du poids. C'est pour ça qu'on est obligé de grignoter tout le temps pour compenser.
Ben, et la taille après la transition, elle dépend de la taille que tu as normalement.
Parce que Kevin, il est plutôt chétif et pas très grand. Mais après, il est devenu gigantesque, pintard. Il prenait de la place dans le couloir.
Ben ouais, Fred. Plus on est musclé et grand, plus on est fort et imposant.
Guilhem et Kevin font partie des legs les plus chétifs. Enfin, c'est pas les plus petits, hein. Moi aussi, d'ailleurs, je suis une grande taille, mais bon, dans la moyenne.
Je tâchais d'imaginer l'énormité des legs les plus costauds et me demandais si leur puissance et leurs nouvelles facultés dépendaient de leur prestance naturelle. Mais je bénéficiais d'un interlocuteur de choix et le flot de questions qui traversait mon esprit m'engagea sur une autre voie.
Et si la première fois que tu rencontres un leg, Lewis, il est déjà complètement transformé, tu arrives à le reconnaître une fois sous forme humaine, même si tu l'as jamais vu avant?
Ben oui, je peux le deviner, le sentir en quelque sorte.
Puis il y a plusieurs indices après qui confirment que c'est lui.
Des indices?
Quel genre d'indices? Une craie sur les cheveux, des poils aux pattes, des ongles longs?
N'importe quoi, arrête de dire des bêtises. C'est pas marqué l'aigle sur le front. On fonctionne plutôt à l'intuition. C'est la seule chose qui nous ment pas, en fait. Donc, même sous forme humaine, tu conserves, enfin, vous conservez certains instincts? Ben oui, un peu. Enfin, comme des traces, ça nous permet de communiquer plus facilement entre nous aussi. Mais le plus simple est encore un petit coup d'œil. Sinon, si tu as encore beaucoup de questions rigolotes comme ça en stock, vas-y, hein. Bien entendu que des questions comme ça, j'en avais un plein panier. Mais bon, je préférais me modérer. Je ne voulus pas lui donner le sentiment que je le considérais comme une curiosité de laboratoire. Je le savais heureux d'en parler, sans contrainte. C'est tout ce qui comptait. Les mecs, vraiment, vous m'épatez. Je regrette de ne pas vous avoir connu avant comme ça. Je me demande comment vous avez la force morale de garder une telle connaissance pour vous. Oh bah tu sais, Fred, hein, y a beaucoup de choses que Guilhem et Kevin t'ont pas dites. Une vie ne suffirait même pas pour te connaître. Nous-mêmes, on découvre des fois des trucs sympas. Mais tu verras ça au fur et à mesure. Allez, tu as raison, je file. Et comme dirait Guilhem, exit l'homme. Exit quoi? Bah je sais pas, il m'a sorti ça hier matin. J'avais trouvé ça comique. Je pensais qu'il parlait du proviseur qui a été mis sur la touche. Exit l'homme. Lewis rit aux éclats. Mais pourquoi tu ricanes comme ça? C'est exilium. E-X-I-L-I-U-M. C'est du latin, ça veut dire exil. Exil? Mais pourquoi Guilhem a souhaité la bienvenue exilium alors? Je dois comprendre quoi? Bienvenue en exil? Bah Fred, t'es long, hein. Tu dois comprendre bienvenue dans notre monde. L'idée d'exil, en fait, c'est pour expliquer notre discrétion à l'égard de tout le monde. Tous les legs vivent à exilium. Mais pose la question à l'abeille, il t'expliquera mieux que moi, il y a peut-être des détails en plus. Bon, écoute, je te laisse se bidonner tout seul, et puis moi je file vraiment. De toute façon, on se verra plus tard, d'accord? Allez, à bientôt, Lewis. Je n'avais pas parcouru 2 mètres que Lewis manifesta le désir de se révéler davantage. Fred, quand Guilhem m'a envoyé hier soir un message pour me dire que tout s'était bien passé entre vous, oh là là, si tu savais comme ça m'a soulagé. Je me suis senti léger, t'as pas idée. C'est plutôt difficile à expliquer comme sensation, mais c'est comme ça, quoi. Je peux te poser une question? Ben écoute, Lewis, si tu penses que je peux y répondre, oui, bien entendu. Tu crois qu'un jour, enfin, tu crois qu'on n'aura plus peur? Enfin, on pourra dire qui on est sans que les gens ils aient bêtement peur de nous? Je vis dans son regard d'enfant écorché que Lewis n'attendait pas une réponse conforme à une réalité que je ne maîtrisais pas. Il attendait plutôt des paroles réconfortantes, au moins pour la journée. Tu sais, bonhomme, plus on vieillit, plus on réalise le nombre de choses qu'on ne sait pas. C'est même d'ailleurs plutôt frustrant. Mais ce temps qui passe en même temps, ça permet de constater que, malgré tout, la société évolue en permanence, à son rythme, elle évolue. C'est dans la nature humaine d'avancer, c'est comme ça, et heureusement. Alors je pense, oui, je pense qu'un jour, les legs seront intégrés dans le paysage, et leur don sera reconnu comme ce qu'il est, totalement naturel. Par contre, je ne sais pas combien de temps ça prendra pour en arriver là. Ah, c'est bien alors. Donc il suffit d'être patient. Eh ouais, Lewis, je dirais même très patient. Mais bon, soyons déjà heureux pour les legs qui viendront après nous, c'est déjà ça de gagné. En attendant, bonhomme, reste discret et profite de la compagnie de tes 2 copains pour voir la vie du bon côté. Et dis-toi bien que si les légatis sont pour le moment condamnés à la solitude, à l'exil, à l'exilium, tu sais, j'en vis vraiment ce que vous êtes. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, bonhomme, allez, je file. Passe une excellente journée à Lewis. À bientôt. Oh, au fait utile, Lewis, suite à notre conversation à la cantine, je crois pas que ce soit utile de dire quoi que ce soit à Sandra pour l'instant. Surprends-la avec tous tes talents, t'en as certainement d'autres, mais pas celui-là. Enfin, du moins, pas tout de suite. Ça marche? D'un pouce en l'air, le jeune amoureux me fit comprendre qu'il avait bien capté le message. Que c'était cette réponse qu'il attendait de ma part depuis 2 jours, pas une autre. Fred, avant que tu partes, je dois aussi te dire quelque chose. Je suis toujours là! Lewis rougit d'avance pour ce qu'il envisageait de me révéler. Si j'ai touché à la... Enfin... Lewis hésitait. Lewis, ne sois pas dur avec toi-même. Allez, ne retiens pas les mots qui font mal. Vas-y, laisse-les s'envoler, tu te sentiras mieux après. Bah, si j'ai touché à la drogue, C'est parce que je savais pas comment vivre mon état de l'aigle, en fait. Quand j'ai connu Guilhem et Kevin, ils m'ont aidé à comprendre que je n'étais ni le seul ni un monstre. Des fois, j'ai eu des envies de replonger quand je me sentais seul. Mais aujourd'hui que t'es là, j'ai plus une seule raison de replonger. Parce que je crois que pour la première fois de ma vie, bah, je suis heureux. Lewis baissa la tête, puis reprit le dandinement auquel il m'avait habitué, écrasé de nouveau par sa timidité. C'est joli le bonheur, hein, je savais pas que ça faisait ça comme effet. Je crois que la vie est belle finalement. J'ai plus envie de la gaspiller. Faut juste s'entourer des bonnes personnes pour ouvrir les bonnes fenêtres. Par pudeur, Lewis le prophète préféra se retourner pour cacher ses yeux brillants, puis repartit chez lui, sans attendre que je le salue une troisième fois. Arrivé devant le portail, Lewis se retourna malgré tout, puis cria dans ma direction. Fred, tu sais ce que j'ai dit au proviseur? Non, vas-y, annonce! Eh bah ben, que tout proviseur qu'il est, je suis plus fort que lui, et qu'il vaudrait mieux qu'il s'en souvienne! Allez, file chez toi, vilain monstre! Il me restait également un dernier passage chez le proviseur, malgré notre dernière discussion particulièrement houleuse. Visite à caractère purement professionnel, qui n'aurait donc en théorie aucune raison de déraper. Son bureau était grand ouvert, mais illuminé. Le proviseur m'entendit arriver et ne se perdit pas en formule de politesse. Main Frédéric, bonjour, entrez. Je ne pourrai pas vous garder trop longtemps. J'ai de l'ouvrage à l'extérieur, maintenant que les routes sont dégagées. Oui, bonjour, monsieur le proviseur. Je ne reste pas longtemps de toute façon non plus. Et puis, comme convenu hier soir, je souhaitais juste vous informer que je repartais chez moi. Et Guilhem et Kevin prennent leur train vers midi. Ben, c'est parfait, j'irai boucler le bâtiment plus tard. Ses yeux brillèrent. Je le vis se malaxer la barbe, que le côté droit démangeait toujours autant. Ce fut plus fort que lui. Une nouvelle discussion difficile s'annonçait. Et je subodorais un terrain bien miné. Frédéric, avez-vous réfléchi à tout ce que je vous ai dit? À quel propos? Oh, écoutez, tous les deux, nous sommes au courant de l'existence de créatures. De lycéens, monsieur le proviseur. Excusez-moi, de lycéens, pas de créatures. Ah, si vous préférez. Donc, nous sommes au courant de l'existence de lycéens en possession d'un don atypique. Et non, c'est pas un don atypique, c'est un cadeau de la nature, c'est tout. Comme d'autres ont le leur propre. Que ce don soit rare ne le rend pas atypique. Enfin, pas dans le sens où vous l'entendez, dans le sens d'une anormalité ou d'une aberration, si c'est ce que vous voulez suggérer. C'est un don qui est plutôt magnifique. C'est pas parce que l'Edelweiss est une petite fleur rare que ça en fait une fleur bizarre. Mais au contraire, ça en fait une fleur précieuse. Vous n'êtes pas d'accord? Si vous voulez, atypique, magnifique, précieux. Moi, le résultat est le même. J'aimerais vous associer à mes projets. Tous les deux, nous pourrions détenir une certaine autorité sur eux. Bon, pas comme des bêtes qu'ils ne sont pas, bien entendu. Simplement, nous pourrions utiliser leurs talents pour améliorer le bien-être de l'établissement. Votre sérieux à la tâche me serait très précieux, vous savez. Moi, je crois, monsieur le proviseur, que vous n'avez plutôt qu'une seule envie. Le contrôle de l'individu, la manipulation par la division. Et j'ai pas envie d'entrer dans votre jeu. Sérieux, je considère ces légatis comme des compagnons. Et j'ai beaucoup à apprendre d'eux, vous savez. Et vous ne les aidez pas à conserver leur dignité. Mais bon sang, soyez raisonnable un instant et atterrissez. Ne comprenez-vous pas que s'offrir des légatis comme serviteur est une stratégie de choix pour réussir ses projets? Vous vous en rendrez rapidement compte, mais leur innocence est un frein agaçant. Ils ne discernent pas le bénéfice qu'ils tireraient à exploiter la terreur suscitée par leur animalité pour imposer obéissance, respect et civisme au sein d'un établissement scolaire comme celui-ci. Une pression, bien entendu, opérée dans la plus grande discrétion. Pas question d'alerter les parents et encore moins l'opinion publique en ébruitant la présence de monstres disciplinaires, dans un sens strict qui plus est. Mais de quoi vous parlez? Et pourquoi les légatis devraient s'amuser à faire peur? Et puis à qui d'abord? Frédéric, vous êtes naïf. Vous savez, immobiliser un délinquant désœuvré au fond de Vespasienne crasseuse pour lui présenter une bonne grosse gueule armée de crocs bien luisants. ça dissout les ardeurs des plus rebelles. Et qui croira que d'affreuses bêtes harcèlent les élèves ? Le proviseur se leva comme un conquérant hypnotisé par son propre discours. « La soumission absolue à l'autorité, voilà la solution pour faire régner l'ordre. Tolérance zéro. Tous ces petits rejetons au cerveau mou, nés de parents paumés, qui se réfugient derrière la loi et qu'on est obligé d'accueillir avec le sourire, en sachant qu'ils pourrissent la vie de leur professeur. Et de la vôtre aussi. Tout ça me fait vomir. » Avec mes créatures comme lieutenant, le rectorat ne serait, il se serait incliné devant l'exemplarité de mon établissement et à tous les niveaux, comportement et travail. La peur viscérale du sentiment, voilà ce qui motive, pas des heures de colle stériles. Et je peux vous garantir que leur bac, ils l'auraient tous avec mention. Ce n'est pas avec des imbéciles incultes qu'on consolide la société.
Oh là, proviseur, votre discours m'alarme un peu, là. Je comprends votre souci d'espérer plus de respect de la part de certains élèves, mais j'ai pas de solution miracle à proposer, mais franchement, je doute de l'efficacité de vos méthodes.
Frédéric, alors que proposez-vous comme recette éducative, puisque vous me semblez si éclairé?
Je crois qu'il faut rester honnête et confesser que le respect et l'amour du travail sont des valeurs présentes quand même chez l'immense majorité des élèves. Alors après, c'est vrai qu'il y a des grosses exceptions. Des exceptions qui viennent confirmer la règle, mais certainement pas l'infirmer. Et puis surtout, ce qui me gêne, c'est qu'envisager des méthodes qui font intervenir la peur comme une sorte de solution pédagogique aux indisciplinés, mais ça me paraît au mieux disproportionné, au pire, c'est de la dictature votre truc. Enfin voilà, je suis désolé, c'est mon point de vue.
Frédéric, si vous aviez passé votre vie à dire amen à des parents qui s'affaissent sous le poids de leur indigence intellectuelle, je vous certifie que vous auriez une toute autre approche de la situation. Les gifles sont terriblement efficaces, vous savez, mais interdites. Les punitions ne font plus peur. Et si le prof met un zéro, les parents hurlent au scandale. Et pour couronner le tout, ces séniles de l'académie imposent pour les examens des barèmes boursouflés pour faire croire au cancre qu'on peut réussir tout en se la coulant douce tout au long de l'année. Aujourd'hui, l'illusion de la réussite est offerte à tous ces crétins d'enfants rois. Il n'existe plus qu'un seul moyen de pression contre les élèves insolents qui se complaisent dans la médiocrité, la peur alimentée par l'intimidation. Quel mal y a-t-il à terroriser un gamin si c'est pour l'aider à le remettre dans le droit chemin?
Les méthodes préconisées par le proviseur, avec la complicité des légatis, m'effrayaient. Et j'étais bien décidé à ne pas laisser son statut de chef d'établissement m'intimider sur le propos, même si je devais jouer ma place, de toute façon, une place sans avenir. Je suis désolé, je suis assez étonné que par cette solution que vous proposez, qui pour moi relève de l'idéologie, vous pensez vraiment qu'avec la circulation libre de l'information et les réseaux sociaux, vos méthodes terroristes et votre petit laboratoire à ciel ouvert n'auraient pas fuité un jour ou l'autre?
Frédéric, j'ai bien peur que votre niveau de naïveté confine à l'expérimental. Redescendez sur Terre, vous êtes un très mauvais visionnaire.
Un très mauvais visionnaire? Alors expliquez-moi, qu'est-ce que vous voyez, vous, dans vos visions?
Laissez-moi vous expliquer mon programme. Oh, il est très simple, hein. Il me suffira de cultiver le laxisme dans les sanctions disciplinaires afin d'installer en quelques semaines un climat d'insécurité et la colère parmi le personnel éducatif. Avant la fin du premier trimestre, de malheureuses victimes viennent gonfler les statistiques sur la violence au milieu scolaire, les parents d'élèves montent au créneau et menacent de retirer leur progéniture de l'établissement, et c'est là que j'interviens. En pleine tempête, j'informe l'académie de la mise en place d'une solution disciplinaire expérimentale, sans m'étendre sur mes petits secrets de fabrication, bien entendu. Le recteur aux abois accepte dans la foulée, puis j'informe les membres du conseil d'administration de l'existence de prochaines mesures destinées à sécuriser l'établissement par l'utilisation de volontaires parmi les élèves pour faire régner l'ordre selon, bien entendu, un protocole très strict, pas question non plus de tout révéler. Bref, je crée le cancer et je propose le traitement.
Au passage, je n'oublie pas de récompenser largement les légatis volontaires pour les missions accomplies avec brio. C'est donc l'ambition qui vous anime? Et tous les moyens sont bons alors pour bâtir votre vision du paradis scolaire?
Frédéric, vous savez, mon salaire est 5 fois plus élevé que le vôtre. Alors s'il vous plaît, ne me donnez pas de leçons sur les vertus de l'ambition.
Mais vous n'avez pas répondu à la question que je vous ai posée tout à l'heure. Vous ne pensez pas qu'à un moment ou un autre, votre petit secret serait découvert par les médias et serait exposé au grand jour? Et tous ces jeunes négatifs qui ne demandent qu'à vivre une vie normale de lycéen, vous y pensez?
Frédéric, saviez-vous qu'il y a encore quelques années, au Japon, se rendre compte que sa femme était gauchère était un motif de divorce? Savez-vous qu'au Mali, les parents cherchent à transformer leur fille gauchère en droitière par des gifles et des coups de fouet, quand d'autres leur déposent une braise dans la main gauche pour les empêcher de s'en servir? Alors vous pensez bien qu'un monde si primitif n'est certainement pas prêt pour accepter l'existence et l'utilité des légatis.
Bon, peut-être dans une dizaine de générations, mais je ne serai déjà plus là.
Opérer sans se faire remarquer n'aurait été qu'une formalité aujourd'hui.
Mais vos méthodes ne feraient que transformer des élèves indisciplinés en gamins traumatisés parce que personne ne pourrait croire ce qu'ils racontent.
Moi, certes, le pourcentage de pertes serait négligeable malgré tout, mais négligeable à côté de la paix qui aurait régné en maître dans mon établissement.
Toutes les trêves ont un prix, vous savez, quoi que vous en pensiez.
Mais vos propos sont terribles, monsieur le proviseur. Je suis consterné, je suis effrayé.
Vous regardez ces légatis comme du super bétail pour assouvir vos ambitions. Mais vous voulez aller où comme ça? Votre vie, elle est à ce point misérable que la seule fonction de proviseur ne vous suffit plus sans que celle de dictateur vous excite. Vous ne voulez pas non plus créer une école militaire pour légatis? Et pourquoi pas un cirque pendant qu'on y est?
Je sentis avoir été un peu loin, mais c'est le cœur qui avait parlé. Et le choix des mots passa au second plan.
Frédéric, hein, je vous estime bien, vous savez. Au moins, on sait à quoi s'en tenir avec vous, c'est un vrai bonheur et je suis sincère. Je n'en dirai pas autant de certains profs pitoyables, spécialisés dans le léchage de vitrines arrière pour faire valider leurs heures supplémentaires. Mais votre vision du monde est d'une pauvreté. C'est pathétique. Les faibles doivent subir pour que les forts prospèrent, c'est la nature qui le commande. Mais vous verrez, à force de fréquenter des légatis, vous vous rallierez tout doucement à mon point de vue, aussi indécent qu'il puisse vous paraître aujourd'hui. Peut-être même parviendrez-vous à en faire de bonnes bêtes de somme après les avoir ramenés à la raison.
Bon, écoutez, proviseur, je ne souhaite pas abuser de votre temps, j'ai aussi des trucs à faire à la maison. Ne pas avoir un gros salaire ne m'empêche pas de mener une vie plus riche que ceux qui croient que tout s'achète. Puis j'ai aussi besoin de mon week-end pour faire le ménage dans ma tête. Et je vous demanderai de ne plus me parler de légatis à l'avenir. Mais ça, je crois que Mathilde vous l'avait déjà dit.
Je fis demi-tour sans même saluer le proviseur. Il ne prit pas la peine d'être plus poli que moi. Sur le chemin du retour, je tripotais d'un geste machinal la carte de visite de l'abbé, laissée dans une des poches de mon parka. Ce moine était-il déjà arrivé à Noirlac? Et puis m'attendait-il vraiment? Et puis quel était son rôle dans tout ça? Qu'est-ce qu'il savait sur les légatis? Est-ce qu'il était lui-même un légatis? Je fis une petite halte et sortis la carte. Je n'avais pas remarqué que seul son titre était mentionné sur cette carte, mais pas son nom. Parmi les différents numéros de téléphone, j'en remarquais un en particulier, sous un hiéroglyphe germanique. Il commençait par l'indicatif de la région. Il y en avait deux autres, plus proches du numéro de mobile dans leur composition. Mais si un jour je devais téléphoner en Allemagne, j'avais plutôt intérêt à m'enquérir des tarifs. Non, je réfléchis un moment. Il n'y avait pas 36 moyens de vérifier si j'étais vraiment attendu pour ce week-end. Je sortis mon téléphone de son étui et composai le numéro qui me parut le plus familier.
Bureau d'accueil de l'abbaye de Noirlac, Johanna à votre service.
Oh, cette Johanna avait une voix toute délicate, la voix d'une secrétaire loyale, efficace, qui cherche à tout prix à rendre service. Mais, à en juger par sa petite voix de canard, je l'imaginais encapuchonné sous un bonnet et une écharpe, mouchoir au menton à portée de main, et tisane miel éteint à côté de son ordinateur. « Oui, bonjour Johanna. Je souhaiterais, s'il vous plaît, parler au père de l'abbaye de... Attendez. L'abbaye de Mariavalde, s'il vous plaît. »
« Je suis vraiment désolé, monsieur. Il n'y a personne de ce nom ici. Et l'abbaye de Noirlac est actuellement fermée. Mais elle ouvre à 10h si vous souhaitez nous faire l'honneur de la visiter. »
« Oui, c'est vrai qu'il était à peine 9h, mais si l'abbaye était fermée, pourquoi n'étais-je pas tombé sur un répondeur ?» Je sentis qu'un peu d'insistance de ma part me serait nécessaire. Oui, je comprends, excusez-moi, l'abbaye est fermée, pardonnez le dérangement, mais l'abbé m'attend, il est venu d'Allemagne spécialement pour me rencontrer, et on m'a donné sa carte avec ce seul numéro pour le contacter. Il y a donc obligatoirement quelqu'un de chez vous qui le connaît ?
Y a-t-il une indication particulière sur cette carte qui pourrait m'aider, monsieur ?
Attendez, je regarde. Oui, j'ai trouvé quelque chose, mais c'est pas en français. Il y a marqué en petit en italique que ceci, alors si je me souviens de mon latin de cinquième, Luceat lux vestra, ça vous parle?
C'est du latin, monsieur. C'est la devise de l'abbaye de Mariavalde. Cela signifie que votre lumière brille.
Ah, donc vous connaissez très bien cette abbaye. Et donc j'imagine le père abbé qui y vit. Il m'attend, mademoiselle, s'il vous plaît, c'est important.
Ne quittez pas, je vous prie.
Oh ben non. Je n'allais pas quitter, surtout pas maintenant. Une dizaine de secondes plus tard, Johanna se manifesta à nouveau.
« Allô, monsieur ?»«
Oui, je suis là. »«
Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous présenter et nous indiquer la raison pour laquelle le père souhaite vous recevoir ?»
Je trouvais cette Johanna bien indiscrète pour une secrétaire. À moins que je ne fusse l'objet d'un filtrage pour protéger les intérêts d'un personnage plus important que je ne pensais. J'allais vite savoir. Écoutez, annoncez que Frédéric... Non. Annoncez-moi comme le nouveau meneur d'Exilium, s'il vous plaît. Aucune réponse. J'attendis une poignée de secondes supplémentaires, puis la vie reprit de l'autre côté de la ligne.
Monsieur, le père abbé est tout aussi impatient de vous rencontrer, et il vous attend à Noirlac demain samedi pour 13h. Soyez à l'heure. Le père apprécie la ponctualité. Au revoir, monsieur.
Fin du chapitre 10. Fin de la lecture pour ce soir. Alors, comme vous l'avez remarqué, j'ai pété tout le budget dans les effets spéciaux. Voilà, ça c'est dit. La rediffusion à la demande sera disponible d'ici quelques minutes sur la page Facebook d'Exilium, bien entendu. Toutes les autres rediffusions en vidéo sont également disponibles sur le Facebook d'Exilium. Et également, toutes les rediffusions MP3 pour vous servir de podcast seront en toute fin de lecture à disposition sur le site, sur la page web de présentation du livre Exilium, exilium.frédéricbellec.fr. C'est facile à retenir, exilium.frédéricbellec.fr. Donc tout ça gratuitement, vous aurez vos MP3 pour vous remettre dans l'ambiance de la lecture. J'ai plus trop grand chose à dire pour ce soir. Je vais jeter un petit coup d'œil sur le message pour voir si vous m'avez bombardé ou au contraire, si, comme je vous l'ai encouragé, vous avez été sage et écouté patiemment. Alors, ma petite Valérie, que j'adore et que j'espère revoir très bientôt d'ailleurs, je lui ai fait un petit coucou déjà tout à l'heure. Je lui refais un gros coucou d'amour, ma petite Valérie et Marie-Madeleine, qui est toujours fidèle au poste. Je lui ai promis une médaille, il faudra que je lui fasse, mais qui me précise que pour moi ce sera réécoute demain. Cela lui arrive régulièrement. Marie-Madeleine a l'habitude de réécouter les lives d'Exilium le matin au petit déjeuner. Voilà, et Valérie qui me rajoute plein de petits cœurs. Alors je ne sais pas comment elle fait pour ajouter cette émoticône du smile et souriant avec les petits cœurs autour, parce que moi j'ai fait ma mise à jour encore pas plus tard que ce matin de Messenger et je n'ai toujours pas ces émoticônes. Donc je me sens frustré. Allez, il est 19h05, voilà, je vous avais prévenu que je dépassais un petit peu, mais rien de méchant. Il est vendredi, donc maintenant on se retrouve lundi soir à 18h30. On va entamer le 11e chapitre. Je crois que c'est lui qui sera divisé en 4 parties, il est assez long. Toute cette partie, tout ce chapitre 11, si mes souvenirs sont bons, sera consacré à une grande discussion technique à l'abbaye de Noirlac. Donc beaucoup de choses intéressantes, très précises, mais vous aurez le temps d'écouter ça. Je vous embrasse tous, je vous dis surtout portez-vous bien, et puis à lundi 18h30.